Radio Divan. Pour une psychanalyse populaire,
l'émission de Guylaine Dubois
et Lucas Bielli,
produite et réalisée par
FM+. Bonjour à tous et à toutes pour cette nouvelle émission Radio Divan, une émission qui met à l'honneur Frantz Fanon et avec nous, Lucas.
Eh bien, bonjour à tous.
Bonjour. Nous avons l'honneur d'avoir Jacques Vénulette. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Alors, Frantz Fanon, très brièvement, mais on va y revenir bientôt, bien sûr, grâce à vous. Frantz Fanon, il est notre... on le met à l'honneur parce qu'il fut... psychiatre en Algérie jusqu'en 1961 ou presque, et il a été psychiatre dans cette période troublée qu'a été l'Algérie à ce moment-là. On en reparlera sûrement avec Jacques Vénulette. C'est un homme, Frantz Fanon, qui est né antillais en 1925 et qui est mort à l'âge de 36 ans. Il était malade le 6 décembre 1961, mais comme je l'ai dit, nous y reviendrons. Pour commencer, nous allons nous intéresser à notre invité, Jacques Vénulette, qui est connu, en tout cas par Internet, mais vous avez probablement fait autre chose dans votre vie, pour ses livres sur la jeunesse. Et au fond, vous voyez, Lucas, je suis très heureuse d'avoir un auteur jeunesse, parce qu'un auteur jeunesse a le sens, normalement, de la pédagogie. Et nous aimons ça en radio, la pédagogie.
Effectivement, oui.
Alors, Jacques, peut-être pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vos productions sur la jeunesse.
Déjà là, je ne suis connu que sur Internet au niveau de mes livres, puisque bon, j'ai arrêté, ça fait déjà un certain moment de chercher à être édité. Les livres édités, il y en a quand même une plus qu'une dizaine chez 7 ou 8 éditeurs différents, des grands éditeurs bien sûr. Et ceux-là ne sont plus réédités, hein. Même si, bon, par exemple, le plus important, ça a été Les Pierres du Silence, un livre sur la Palestine, Palestine-Israël, et qui a eu le grand prix du livre jeunesse quand même. En 1994, donc voilà. Donc, mais ce livre-là, malheureusement, n'est plus édité. Bon, mais tout ça, ça existe toujours en bibliothèque. Je n'ai pas existé que sur Internet. J'ai existé dans les bibliothèques et dans des multiples rencontres, parce que bien sûr, il y a les salons, les rencontres diverses en scolaire. J'en ai fait une dose importante avant de me décider un peu, quand je suis arrivé à un moment où je sentais que pour arriver à éditer de nouveaux livres, il fallait trop se battre, de mettre mon énergie ailleurs. Et je l'ai mise après donc, dans le militantisme, au niveau de l'antiracisme, sachant que pratiquement tous mes livres, d'ailleurs, étaient sur cette thématique de la différence et de l'acceptation de cette différence.
Pourquoi avoir choisi d'écrire pour la jeunesse ?
On choisit... Bon, d'abord, c'est très vaste, disons, justement. Jeunesse, ça couvre des publics très différents. Hein, entre un livre qui va être lu à l'école primaire, et j'en ai certains qui sont lus en école primaire, des livres que j'ai publiés qui étaient vraiment destination d'école primaire. Un livre, par contre, comme Les Pierres du Silence, c'était un livre grand adolescent qui est le même public que le public adulte. Hein. Et donc, il est vrai que j'ai envoyé des livres en adultes qui n'ont pas été acceptés. Le livre Les Pierres du Silence n'a pas été accepté en adulte. Et après, là aussi, j'aime pas trop insister lourdement. Si on ne me veut pas, bon, je dis au revoir. Et puis c'est tout. Et mon premier livre a été publié, juste au coin de ciel bleu, dans une collection sur la thématique des migrants. Hein, c'est un livre sur la thématique des migrants que j'ai écrit. J'ai vécu un certain nombre d'années en coopération au Maroc. Et c'est là, c'est ce qui m'a ouvert les yeux un peu sur certaines réalités. Et ce livre-là, c'est vraiment le livre de mon retour du Maroc. Et ce livre a de suite été accepté dans une collection jeunesse. Et à partir de là, j'ai enchaîné des livres, je vous dis, toujours quand même sur cette thématique de la différence, avec des publics, le public jeunesse, c'est très large, je vous dis, c'est vraiment, ça va du public enfant, j'ai pas trop écrit pour le public enfant, à un public qui est un public pré-adulte. Donc, c'est très. Aujourd'hui encore, on a du mal à faire ces différences-là.
On le voit très bien. On parle même d'adolescents pour la littérature.
Voilà. Aujourd'hui, on a ouvert des registres adolescents qui n'existaient pas à l'époque, où on mélangeait un peu tout. Donc, c'est vrai que c'était. Moi, j'ai vu certains de mes livres que je suis allé présenter en école primaire, alors que. Comme juste un coin du ciel bleu, par exemple, où la thématique ne correspondait pas quand même à l'école primaire. Donc aujourd'hui, on a compris que c'était beaucoup plus large. Il n'y a pas les enfants d'un côté, les adultes de l'autre. Voilà, pour commencer. Il y a toute une progression adolescente qui fait que des problèmes qui sont évoqués à l'adolescence sont des problèmes. On les évoque pas de la même manière, peut-être, mais les thématiques sont les mêmes. Hein. Donc les frontières sont très, 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 très difficiles à définir. Et c'est problématique au niveau éditorial. Il y a pas, pour moi, c'est problématique. Il n'y a pas de doute.
Hein. Si les frontières étaient aussi faciles à définir sur le terrain des pays, ce serait bien.
Oh là là, mon Dieu. Là, on entre un débat. Là, hein. Il y a un débat très, très difficile.
Lucas, un commentaire sur ces publications jeunesse, vous qui vous occupez d'enfants, par ailleurs. Vous avez peut-être un avis là-dessus?
Ce qui m'intéresserait de savoir, moi, c'est justement déjà pourquoi avoir choisi cette jeunesse. Et j'ai cru lire aussi dans ce que vous avez écrit, ce que Guylaine m'a proposé de lire. Vous parlez de la jeunesse de Franz Fanon et aussi du fait que c'est quelqu'un qui a toujours gardé cet esprit un peu adolescent qu'on comparait souvent à Rimbaud. Est-ce que c'est quelque chose, vous, qui vous a touché, qui... Peut-être que vous avez des points communs sur.
Bien sûr.
Alors, allons-y sur Franz Fanon, c'est parti.
Voilà, parce que on glisse directement sur Fanon. Alors. Moi, Fanon m'a toujours séduit. Il m'a séduit par ses idées. Hein. Quand j'étais au Maroc, j'ai découvert des choses. Je l'ai dit dans mon texte justement sur Fanon. Fanon, il est allé de découverte en découverte, de choc en choc. Hein. Son premier choc, par exemple, c'était l'esclavage. Hein. Il vivait à la Martinique. Et il s'est aperçu que la Martinique avait été une ville d'esclaves, alors qu'il n'avait que 11 ans ou 12 ans. Il avait déjà 11 ans ou 12 ans. Personne ne lui en avait parlé, parce qu'on ne parlait pas de ces choses-là. Et un jour, quand il était à une commémoration de Schœlcher, il s'est dit, bon, si on commémore ça aujourd'hui, c'est que ça existait. Et que ça existait, et que c'était sa propre famille qui était concernée. Donc c'était un premier choc. Le deuxième choc après, c'est la découverte du racisme en France. Ils ne connaissaient pas le racisme en Martinique. Hein. Les Béquets vivaient de leur côté, hein. les Noirs vivaient du leur. Il n'y avait pas de contact. Le premier contact qu'ils ont eu, c'est quand la Martinique a été un refuge, en quelque sorte, pour l'armée de Pétain, en fait, hein, qui est venue à la Martinique. Et à ce moment-là, ils ont eu un contact avec une population où ils ont directement ce contact. Et là, ils ont commencé à entrevoir le racisme, mais légèrement. Et après, quand Fanon est arrivé en France, son premier truc, c'était le gamin dans la rue qui dit « Tiens, regarde, maman, un nègre ». Bon, ça lui était jamais arrivé en Martinique, bien évidemment. Donc, il n'a pas arrêté d'avoir des chocs. Autre choc, c'est l'Algérie. Avant d'aller en Algérie, en France, il était donc psychiatre, il était médecin psychiatre, et il suivait les travailleurs immigrés de l'époque, qui étaient des travailleurs algériens, qui étaient seuls, complètement seuls. Hein, ils n'avaient pas leur famille. Et ils étaient tous en souffrance. Quand il leur demandait où vous avez mal, ils avaient mal partout. Bon, il a écrit là-dessus. Et il a compris à ce moment-là ce qui se passait à ce moment-là avec cette population comme marginalisée. Il a écrit des textes remarquables là-dessus.
Donc ça, on est avant 61, bien sûr. On est dans les années 50.
Il est parti en Algérie en 53. Il est parti en Algérie en 53. Il a fait un long séjour au niveau psychiatrique. Oui. Il y a beaucoup de choses à dire sur lui. Peau noire, masque blanc, par exemple, son premier livre qui a été édité, c'était un livre de thèse médicale. Hein, et qui a été, au niveau de la thèse, ça a été refusé complet. Hein, parce que ça ne correspondait pas du tout à l'esprit psychiatrique de l'époque. Donc, lui, il n'était pas du tout dans la norme psychiatrique de l'époque. Quoi, disons, la norme psychiatrique de l'époque, c'était des chaînes quelconques, hein, c'est-à-dire soit médicales, soit physiques. Hein, les fous, on les enfermait.
Déjà, lui, il était dans une posture d'écoute
de
ces hommes-là.
De comprendre qu'il fallait écouter et qu'il fallait remettre en cause tout un ensemble. Et il a eu la chance de trouver Tosquelles, hein, donc à Saint-Alban, et où il est allé faire son internat, je ne sais plus si c'était son internat ou autre chose. Avec cette psychiatrie ouverte qu'il a de suite séduit, quoi, disons, complètement. Et après, quand il a fallu qu'il rentre vraiment dans la carrière professionnelle, parce que là, je crois qu'il était, je dirais, pas stagiaire, je ne sais pas exactement comment ça se passait. Il pensait pas à l'Algérie, il ne connaissait pas l'Algérie, il s'occupait de l'Algérie, même s'il y était passé quand il avait fait, oui, il y a quand même un premier épisode de sa vie, c'est qu'il a quand même participé à la libération de la France,
oui.
dans les tirailleurs sénégalais, on veut dire. Voilà. Mais donc...
Françaises libres.
Oui, mais non, pas dans les forces françaises libres.
Ah oui,
non, pas du tout.
Ah, c'est ce que j'ai lu.
Non.
Oh, les journalistes
dans l'armée,
font des erreurs.
Dans l'armée. Il s'est engagé dans l'armée et il a participé au débarquement donc, en Provence. il a participé à toutes les combats très violents jusqu'à la libération complète de la France. Il a été blessé dans la poche de Montbéliard quand il y a eu les. Et après, il a été, comme tous les autres, il a été un peu moins que les autres parce que les Antilles étaient un tout peu plus respectés que les Sénégalais, hein, parce qu'ils étaient...
Ils étaient français ?
Non. Ils étaient français.
Les Sénégalais n'étaient pas français.
Non, mais c'est plus compliqué que ça.
D'accord.
Je ne vais pas rentrer dans les détails de suite, mais c'est plus compliqué que ça. Parce qu'il n'y a pas eu encore la départementalisation, c'est après la guerre, autant que je me souvienne. Donc, ce n'était pas encore la départementalisation, c'était encore une colonie proprement dite. Mais donc, voilà, ce n'est pas le sujet. Je ne sais plus où j'en étais.
Il se rend en Algérie seulement voilà. Alors, après avoir
quand
arrêté...
Quand il doit travailler, il ne sait pas encore très bien où c'est qu'il veut aller. Il écrit à Senghor, qui ne lui répond pas. Il pensait pouvoir aller au Sénégal. Il pensait éventuellement revenir en Martinique ou Guadeloupe. Il était déjà revenu un peu. Le climat ne lui avait pas trop plu. Bon, mais en tout cas, il n'a pas pu, matériellement. Et il reçoit un poste pour Blida. Hein, voilà, un poste à l'hôpital de Blida. Et il y va, voilà. Sa connaissance de l'Algérie, c'était par les travailleurs immigrés qu'il avait soignés quand il était à Lyon. Hein, toute son année
de
médecine, c'est par ses études et tout, se sont passées à Lyon. Même s'il a fait après des internats à plusieurs endroits. Et là, il découvre. Il découvre la réalité, là, du racisme in situ, en quelque sorte. Hein. Le racisme qu'il avait vu, c'était le racisme d'abord qu'il a subi, lui, en tant que noir martiniquais. Hein. Le racisme qu'il a vu infliger à ses travailleurs en France, à ses travailleurs algériens en France, il y a des textes remarquables là-dessus, hein, où il écrit justement à ses collègues qui ne voient rien. Hein, des phrases comme ça, par exemple, ce texte s'appelle « Syndrome nord-africain ». Il s'adresse à des confrères médecins, mais qui dépassent largement ce cadre. « Tous ces hommes qui ont faim, tous ces hommes qui ont froid, tous ces hommes qui ont peur, tous ces hommes qui nous font peur, qui écrase l'émeraude jalouse de nos rêves, qui bouscule la fragile courbe de nos sourires. » Ça, ce sont les travailleurs immigrés de l'époque.
Qui parlent comme ça, oui.
Il parle d'eux comme ça.
Il transcrit ces paroles-là.
C'est lui qui a ce poème rapporte ça. Il dit, ils sont menteurs, ils sont voleurs comme un arabe. Et puis, l'arabe est un voleur. Tous les arabes sont des voleurs, c'est une race feignante. Il n'est pas en Algérie encore, là. Hein. Sale, dégueulasse, il n'y a rien à faire, rien à tirer. Voilà. Donc, ça, c'est sa première découverte. La découverte du sort qu'on fait subir aux Algériens dans ces époques-là. À l'époque, on accueillait très bien les Noirs américains. Être Noir américain, c'était très chic, très bien. Hein, dans les boîtes de la rive de gauche, on dansait beaucoup le jazz et tout. Il y a un livre remarquable là-dessus, j'ai plus le titre en tête, mais un livre remarquable là-dessus, justement, d'un noir américain qui, en France lui-même, découvre qu'au niveau des noirs, ils sont bien accueillis, alors qu'au niveau des arabes, dès qu'ils viennent dans une boîte comme ça, avec un arabe, on le met dehors. Lui, il peut aller dans la boîte. L'arabe, non, il ne peut pas y aller. Hein. Donc ça, c'est avant octobre 61. Hein, la grosse répression d'octobre 61. Hein, c'est bien avant tout ça. Mais ça annonce déjà tout ça. Donc ça, il le voit. Ce racisme en France, il le voit. Il le voit parce qu'il est sensible, bien sûr, à cette question de racisme. Mais il ne connaît pas encore la situation coloniale, vraiment. Il connaît la situation coloniale martiniquaise, qui est différente quand même, parce que c'est une autre... C'est des colonies, c'est des anciennes colonies. Il y a un racisme, évidemment, mais ça n'a rien à voir avec l'Algérie. Et quand il va découvrir l'Algérie, il arrive un an avant la Toussaint 54, c'est-à-dire avant le déclenchement de la guerre. Et dans son hôpital, il voit tout. Et il voit que c'est impossible. Il voit que c'est impossible de soigner les malades algériens, parce qu'ils sont pas mal, ils ont pas mal à partir d'une, de petits, quelques problèmes personnels. Ils ont mal à partir de la situation dans laquelle on les fait vivre, du fait colonial.
Ouais. Hein? Est-ce qu'il reçoit à la fois des Algériens et des militaires français qui sont là-bas?
Des militaires peut-être, mais surtout des pieds noirs.
Des pieds noirs.
Hein? Ouais. Mais très vite, ça va être la guerre. Hein?
Oui.
Très vite, ça va être la guerre. 54, c'est déjà la guerre. Et il va recevoir des publics très différents.
Mmh.
Il va recevoir des militaires, effectivement, qui ont torturé. Hein. Il va recevoir des publics très, très différents. Mais surtout, lui, il va comprendre qu'il ne peut pas continuer comme ça, quoi, disons. Et c'est là qu'il écrit, donc, en décembre 1956, il adresse une lettre au ministre Robert Lacoste, au ministre résident à l'Algérie, gouverneur d'Algérie, en lui disant que ce n'est pas possible. Si la psychiatrie est la technique médicale qui se propose de permettre à l'homme de ne plus être étranger à son environnement, je me dois d'affirmer que l'arabe, aliéné permanent dans son pays, vit dans un état de dépersonnalisation absolue. Voilà. Il fait ce constat. Il dit « je ne peux plus ». Et il démissionne. Et il s'en va. Et il s'en va, juste d'ailleurs. Hein, parce qu'à peu de mois après... Parce que là, on est déjà en 56.
Ouais,
hein.
Ouais.
57, ça va être la grande répression, la bataille d'Alger. Mmh. Il aurait pu lui arriver le même sort que Henri Alleghe ou même que Maurice Audin. Hein. Mmh. Et lui, il passe juste entre les mailles à ce niveau-là. Il revient.
Il
démissionne, il revient en France.
Ouais.
D'abord, il revient en France.
Donc, il s'aperçoit qu'il ne peut pas exercer son métier de psychiatre dans ces conditions-là.
Voilà, exactement.
Parce que les hommes lui expriment un malaise, un mal-être qu'il ne peut pas soigner.
Voilà, d'une part, ça c'est le problème médical. Mais il passe de suite après un autre registre quand même, hein, registre plus politique, disons, d'une vision globale du colonialisme, où ça dépasse, ça va dépasser le cadre proprement dit de la médecine.
Ouais, ouais.
Et il va parler de sujets qui n'ont plus rien à voir, disons, avec le médical.
Mmh.
Hein. Mais il va toujours rester dans le médical quand même, hein, parce que après, quand il va revenir, donc qu'il va adhérer au FLN, en fait, et qu'il va travailler avec le FLN, il va être à Tunis. Et à Tunis, il va travailler dans un hôpital également. Hein. Donc il va continuellement, pas jusqu'à la fin, jusqu'en 60 en tout cas, il va travailler, c'est là qu'il a connu Alice Cherki,
qui a fait une très belle biographie
de Frantz Fanon. Hein. Et voilà, donc la psychiatrie, ça a toujours été quelque chose... Il ne l'a jamais lâché. Et c'est ce qui lui a permis, justement, après, moi, à mon sens, dans sa vision globale, de toujours intégrer cet aspect. Par exemple, bon, il n'a pas spécialement été marxiste. Les conditions sociales et tout ça, il sait l'importance de tout ça. Et il a toujours appuyé ce côté-là aussi. Mais il a toujours dit, et c'est ça la rupture un peu avec la France et avec le Parti communiste, par exemple, et avec la gauche... Enfin, avec, c'est plus compliqué de parler de la gauche à ce moment-là,
oui.
Avec le Parti communiste en tout cas. Et il est sur les mêmes bases qu'Aimé Césaire, par exemple, qui démissionne du Parti communiste, en disant que bon, la lutte sociale pour renverser la bourgeoisie, le capitalisme et tout ça, c'est bien, il le faut, mais qu'il faut comprendre qu'il y a aussi une autre souffrance. La souffrance, il y a ceux qui subissent la souffrance sociale et qui, en plus, subissent cette souffrance du colonialisme, du fait du colonialisme. Ça, il a toujours compris. Hein, et il a compris grâce à son expérience psychiatrique.
De sa place de psychiatre.
Ouais, de sa place de psychiatre, qu'il n'a jamais abandonné.
Lucas, un commentaire ou...
Non, mais on continue.
On continue. On laisse parler Jacques. Allez, on lui laisse l'autoroute. Donc là, déjà, on sent sa radicalisation. En adhérant à FLN, il prend carrément parti, en fait.
Oui, mais appeler ça radicalisation, il est...
Non, le
problème de Fanon aussi, c'est que Fanon, on l'a toujours accusé de violent. On l'a traité de tous les noms, Fanon. Hein, on l'a traité de tous les noms, surtout en France. Hein, surtout en France par rapport à l'Algérie. Alors qu'il est reconnu internationalement pour ses idées, de voir ce que ses idées apportent. Hein. Mais en France, on a fait de lui quelqu'un qui appelait à la violence, qui appelait à tuer, qui appelait, etc. Alors que simplement, lui, il analysait une situation. Et par exemple, au niveau du colonialisme, c'est quand il parle du colonialisme en général, où là, ça dépasse donc le cadre proprement dit de ce qu'il voit, lui, au niveau de la psychiatrie. Quand il parle du colonialisme, il voit ça, disons. Je cherche justement ce passage où il dit « On peut faire tant de livres qu'on veut sur le racisme. On peut dire les cas particuliers de gens qu'on va défendre parce qu'ils sont, ils sont torturés et tout ça et tout. On peut faire tout ce qu'on veut. Le fond du problème, c'est le fait colonial lui-même. Tant que le fait colonial n'est pas supprimé, on pourra faire tout ce qu'on veut. Le racisme suppose le colonialisme suppose le racisme.
Parce qu'il sous-entend que quand il y a de colonisation, il y a une négation de l'individu.
Voilà, il y a une négation de l'autre. Et on peut faire ce qu'on veut, on peut être gentil, personnellement, et ça a été le cas d'ailleurs de beaucoup de colons, on va dire, gentil avec les personnalités, mais le fond du problème reste le même. On nie l'existence de
l'individu en tant que tel, avec sa culture.
On nie l'existence déjà d'un peuple.
D'un peuple.
Hein, non seulement de l'individu, mais d'un peuple, et d'un peuple, et de l'individu avec tout ce qu'il a, qu'il a autour, effectivement.
Qui fait son identité, au fond.
Qui fait son identité, effectivement. Voilà. Donc.
D'accord. Donc ça, c'est un... C'est vrai... Et puis, c'est un homme qui est mort peut-être avant d'avoir vu, vécu toutes les conséquences de sa pensée, finalement. On a parlé de ses présidents africains qui se sont nourris de son Non, vous hésitez à dire ça. J'entends dire certains dans la solidarité panafricaine, on va
voilà,
dire.
Voilà. Aujourd'hui, on en fait beaucoup dans la solidarité par rapport à Fanon.
C'est pas du tout votre avis.
D'abord, on l'a pas. On l'a pas.
On ne sait pas.
Il faut écouter ce qu'il a dit. Hein. Ouais. Là-dessus, à partir des années 60, justement, et il s'est un peu détaché du problème algérien. Pour des raisons diverses aussi, c'était compliqué. La lutte du FLN était compliquée. Hein. Il y a des choses à l'intérieur du FLN, des différents internes, qui l'ont beaucoup blessé. Hein. Comme quand il y a eu l'assassinat, disons, d'un des initiateurs de la lutte, ça, qui était un ami à lui, ça l'a énormément blessé. Donc, il est toujours resté militant fidèle, en quelque sorte. Il n'a jamais critiqué à l'interne, parce qu'il savait que le final, c'était la libération de l'Algérie, point final. Voilà. C'était la fin du colonialisme. C'était l'indépendance algérienne. Mmh. Ça, c'était son seul objectif. Hein. Mais les manières ça lui a pas... Il n'était pas toujours d'accord, quoi, disons. Hein. Et les autres, d'ailleurs, lui rendaient bien. On n'était pas toujours d'accord avec lui. Hein. Et dans les années 60, il s'est poussé tout seul, ou on l'a peut-être un peu poussé, vers des relations au niveau de toute l'Afrique. Hein, où il a été délégué, disons, au niveau de 60, c'est la libération, c'est l'indépendance africaine aussi. Hein. Tous les pays sous la coupe, sous la domination française, pratiquement tous ont leur indépendance en 60. Et cette indépendance, elle lui fait peur, en fait. Et il le dit parce qu'il sait très bien, que d'un côté, comme il le dit, De Gaulle, il a rien sacrifié. De Gaulle, il a sacrifié ce qu'il fallait pour que tout changer pour que rien ne change. Hein, c'est la phrase célèbre. Mmh. Il a tout changé pour que rien ne change. Rien n'a changé, effectivement. Mmh. Du colonialisme, on est venu directement au néocolonialisme. Et ça, il l'a très bien senti. Il l'a très bien vu, lui. Et il a très bien vu à quel point certains dirigeants africains, par exemple le président de la Côte d'Ivoire, j'oublie son nom, mais
de l'époque,
Oh là là, oh, vous allez pas m'aider là-dessus.
Si, on va terminer Franz Fanon, on va bientôt passer une pause musicale et on reviendra là-dessus.
Voilà, merci.
Voilà ce personnage riche, hein, riche en réflexion à la fois, comment dire ça, sur l'individu, sur la place de l'identité humaine et des peuples. Comment elle s'est construite aussi, cette pensée-là? Je trouve que vous en avez fait un beau parcours, au fond. Comment ça s'enchaîne dans sa réflexion?
Ah oui, oui. Lui c'est, comme je dis dans le début de mon livre, il y a vraiment des étapes successives. Hein. Voilà. Des étapes successives, des cercles de l'enfer, en quelque sorte. Des cercles de l'enfer colonial. Le premier cercle étant l'esclavagisme, donc qu'il dépasse. Le deuxième cercle étant cette découverte de la réalité des travailleurs immigrés en France. Et le troisième cercle étant le colonialisme lui-même et sa présence. Mais ensuite, dans son analyse justement des pays africains, première chose qu'il dit, et qu'il dit largement dans son livre, dans le dernier livre qu'il a écrit, donc, qui est le plus connu, dans ce dernier livre, il dit...
Les Derniers de la Terre ? Non, ça c'est
les Derniers de la Terre. C'est son livre qu'il a reçu le manuscrit final sur son lit de mort. Hein. Le livre a été publié publié. Il n'a pas été publié parce qu'il a été mis en ligne de suite. Mais à ce moment-là. Donc, il dit de suite là-dessus que justement, au niveau des colonisateurs, il ne faut pas que le colonisateur dise, comme ça a été fait, un peu comme on l'avait avec la Guinée, par exemple, à l'époque de Sékou Touré, vous ne voulez pas, eh bien, on s'en va. C'est-à-dire que on vous a exploité pendant tout un tas d'années, hein, on a profité de vous, on n'a rien mis comme structure et tout, et puis maintenant on retire tout. On retire notre argent, on retire nos savants, on retire notre technique et tout, et en quelque sorte, vulgairement, débrouillez-vous. Mmh. Hein. Il dit ça, c'est pas possible. Et c'est pourtant ce qui s'est passé, en fait. Mmh. Ce qui s'est passé avec certains pays. Donc avec certains pays, ça a été ça. Avec d'autres pays, lui, il a très bien senti monter aussi une bourgeoisie africaine qui n'était pas à la hauteur. Il a des mots très durs pour cette bourgeoisie, en disant que cette bourgeoisie, elle est passée, contrairement à la bourgeoisie européenne qui a progressé et tout, elle est de suite passée au stade uniquement de vouloir profiter des choses, sans jamais construire, uniquement profiter. Il le dit, ça. Hein, il souligne tout ce qui va être négatif dans ce qui va se passer après l'indépendance. Il le souligne, tout ça. Dans les Derniers de la Terre, il le souligne largement. Mmh. C'est pour ça, quand on dit de lui que c'est quelqu'un qui allumait des mèches, qui était violent et tout, il était violent, mais parce que la situation coloniale est violente, c'est désolé. Mmh. Et que sortir d'une situation violente sans violence, c'est parfois difficile. Mmh. Même, c'est toujours difficile.
J'aurais une question. Oui, alors, parce que c'était quelqu'un aussi qu'on pourrait considérer comme un penseur. Pas très loin de... On pourrait même peut-être le qualifier aussi de philosophe, mais pas dans le sens de celui qui décrit des textes, justement, de celui qui pense. Il me semble qu'il avait aussi une vision propre de ce que devait être une société et la place de chaque individu. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ?
Oui, je ne sais pas s'il a trop développé ça quand même. Non, il n'a pas imaginé une société. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il ait fait ça. Tout ce qu'il a fait. Il a continué ce combat, disons, qu'il a commencé avec Peau noire, masque blanc, hein, c'est-à-dire où il analyse, disons, le racisme subi par les Noirs, mais comment ce racisme a été intériorisé, hein, comment ce racisme a été intériorisé, et qu'il faut s'en défaire, il faut casser ça, il faut casser ces structures qui se sont installées, et ces structures qui se sont installées dans le racisme, elles vont concerner autant ceux qui subissent le racisme que ceux qui le font subir aux autres. Et parfois d'une manière inconsciente. On le voit aujourd'hui encore. Les traces du colonialisme sont là. La manière dont on considère aujourd'hui le continent africain, on le voit avec ce qui s'est passé au Niger, avec ce qui s'est passé au Gabon, on voit très bien que les réactions des politiques, mais aussi de la population, elle est dans une incompréhension. On ne sait pas ce qu'on a fait là-bas. Et on l'a oublié pour une bonne raison, qu'on a eu le colonialisme. La fin du colonialisme, c'est fini, ça n'existe plus. Il n'y a plus rien qui existe. Or, toutes ces structures, ça c'est ce qu'on fait, là on peut passer à l'aspect de la création du Musée national d'histoire du colonialisme.
Exactement, on va tout de suite faire une petite pause.
On veut montrer ça dans cette création, voilà. Qui a eu cette construction, qui aujourd'hui, elle existe encore. Si vous allez dans la rue interroger des gens, d'une part, ils méconnaissent complètement l'histoire de l'Afrique. Ils ne savent pas ce qui s'est passé. Hein, ils ne savent pas du tout ce qui s'est passé. Ils ne savent plus ce qui s'est passé. Et ils ne veulent même pas le savoir. Et d'autre part, ils gardent quand même... Il y a un racisme colonial, il n'y a pas de doute, encore aujourd'hui.
Alors, on va clore la discussion sur Frantz Fanon avec un morceau de slam, Cinémophobe, Le Globe. Et on se retrouve dans presque 2 minutes.
J'ai publié Peau noire, masque blanc.
Je suis l'un des fondateurs du courant de pensée tiers-mondiste. Alors je cite. Ces choses, je vais les dire, non les crier. Car depuis longtemps, le cri est sorti de ma vie. Pour le coloniser, la vie ne peut surgir que du cadavre en décomposition du côlon. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Alors nous sommes qui? Franck Fanon. J'arrivais dans le monde soucieux de faire lever un sens aux choses. Mon âme, pleine du désir d'être à l'origine du monde, et voici que je me découvrais objet au milieu d'autres objets. Je suis Franck Fanon. Nous sommes Franck Fanon. Mon ultime prière, ô mon corps, fais de moi toujours un homme qui interroge. Ô mon Dieu, fais de moi toujours une plume qui soigne que des mots. SNLG.
De retour sur Radio Divan, sur FM+, avec Jacques Vénulette, qui nous a parlé de Franck Fanon, Luc Abieli à nos côtés, qui vient de retrouver le nom que nous cherchons de président de la Côte d'Ivoire, Oumphouet Boigny, en effet. Alors, nous avions déjà commencé, juste avant cette pause musicale cinémophobe, Le Globe, qui rend hommage à Franck Fanon, nous commencions à parler de l'impact de cette colonisation et de tout ce qu'on vit aujourd'hui. Et nous allons faire le lien avec vos engagements, Jacques Vénulette, auprès du MRAP Lunellois, et dans ce projet de création d'un musée national de l'anticolonialisme.
De l'histoire du colonialisme.
De l'histoire du colonialisme. Ah oui, pas de l'anticolonialisme, attention. L'histoire du colonialisme, et tout cela en moins de 10 minutes. Alors le MRAP...
Ça va trop speed. C'est pas le MRAP Lunellois, c'est le MRAP national.
National.
Ça, c'est au niveau du MRAP national. Non, au niveau du MRAP national, le MRAP, c'est le mouvement contre le racisme et l'amitié entre les peuples, créé en 1949, après la guerre, suite à la Shoah, mais qui avait compris aussi après la réalité coloniale dès ce moment-là. Et qui a d'ailleurs changé son nom pour intégrer l'ensemble des racismes. Il n'y a pas l'antisémitisme pour le MRAP d'un côté et les autres racismes de l'autre. Tous les racismes sont différents, bien sûr, et chacun a son histoire. Et le racisme anticolonial a son histoire. Voilà. Et ce racisme anticolonial qui a son histoire, on le voit aujourd'hui avec, si vous dites « issu de l'immigration », c'est une expression souvent utilisée, ça. « Jeune issu de l'immigration
oui. »,
à qui on pense? Est-ce qu'on pense aux enfants espagnols, d'origine espagnole, italienne, polonaise? Non.
Non.
On pense que à l'immigration coloniale.
Ouais.
Il n'y a que l'immigration coloniale, jeunes issus, comme s'il n'y avait que eux qui étaient immigrés, que l'immigration a été... La France est une terre d'immigration depuis longtemps. Les intégrations se sont faites avec beaucoup de difficultés, d'ailleurs. Hein, mais, et aujourd'hui, par contre... Issus de l'immigration, voilà, il n'y a que... Ouais.
Donc, et pourtant, le musée de la Porte de Vincennes, le musée de
palais, oui.
Le palais doré...
Le
palais de la Porte dorée, là, en ce moment, fait une exposition sur l'immigration asiatique.
Oui, c'est très bien. Alors, le palais de la Porte dorée, on peut en parler, justement, parce que...
Parlons-en. Parce que moi, j'avais l'impression que votre projet, le projet du MRAP national, faisait un peu doublon par rapport à ce musée.
Ça ne peut pas faire doublon, dans la mesure où le palais de la Porte dorée, ce n'est pas un musée du colonialisme, c'est un musée de l'immigration. L'immigration.
Le colonialisme pour être intégré...
Bien sûr, mais intégré, comme vous dites. Mais pas unique.
Pas unique.
L'immigration, elle est italienne, elle est espagnole.
Ouais.
Et... Elle est présente, cette immigration est présente dans le musée de l'immigration. Elle est polonaise, heureusement qu'elle est présente, elle est portugaise. Heureusement que toutes ces immigrations sont présentes dans le musée de l'immigration.
Donc vous voudriez vraiment un musée consacré au colonialisme?
Oui, mais parce que ça n'a rien à voir d'abord. Hein.
Ouais.
Le colonialisme a provoqué de l'immigration, et effectivement, il y a l'immigration issue du colonialisme, mais le colonialisme, c'est une histoire. Hein. Ce n'est pas eux qui sont venus chez nous, je vous rappelle. C'est nous qui sommes allés chez eux, quand même. Non, mais c'est quand même...
Je ne vais pas le contester.
C'est quand même ça, le départ. Le départ colonial, c'est pas tout d'un coup les immigrés qui arrivent, on ne sait pas pourquoi. S'ils sont là aussi, c'est parce qu'on est allé les chercher. Hein. Donc, voilà. L'histoire coloniale, il faut la connaître.
Ouais.
Il faut savoir qu'à une certaine époque, il y a eu deux histoires coloniales. Le premier empire colonial, donc sur la base de l'esclavagisme avec l'ancien régime, et le second empire colonial... porté par la République, par la République française. Jules Ferry, celui qui a fait l'école obligatoire. Bon, c'est lui qui a diffusé vraiment fortement ce deuxième colonialisme, avec un abandon des valeurs de la République, complète. Parce que la République, c'est liberté, égalité, fraternité. Hein. C'est pour tout le monde. Et là, on a fait des citoyens, les Français, et des sujets. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait, c'est le cas en Algérie, par exemple, 1 million de citoyens hein, et 7 millions de sujets, hein, des indigènes, qui n'avaient pas du tout les mêmes droits, absolument pas, qui relevaient de tout à fait autre chose. Ça, on l'a fait en Algérie, mais on l'a fait ailleurs aussi. Il y a eu le code noir pour l'esclavage. Ensuite, il y a le code de l'indigénat. On a créé le code de l'indigénat. Donc, ce code de l'indigénat, c'est ça l'histoire coloniale. C'est ça qu'on a fait là-bas, où on a trahi les principes de la République. Les principes de la République, c'est l'égalité des individus. Là, on a trahi cette donc, et ça, bon, voilà, on l'a fait. On va pas se mettre à genoux. Ouais. Le problème, il est pas là.
Vous voudriez rappeler cette mémoire-là.
Ah, voilà, ouais, c'est indispensable. Ouais. C'est indispensable de le rappeler. Récemment, une journaliste par rapport au Niger, par exemple, écrivait dans un article, disait les Français ne savent pas ce qu'on a fait subir au Niger à une certaine époque. Vous lisez un livre de Simenon qui s'appelle Le coup de lune, par exemple. Tranquille. Un livre tranquille avec un jeune à cette époque-là, on est dans les années 30, je crois que c'est les années 30, qui va dans un comptoir pour aller couper des arbres au Gabon et qui arrive avec plein de belles idées, pas de belles idées pour aider les gens, hein, mais en pensant que c'est l'aventure et tout ça. Et là-bas, il va découvrir quelque chose de sordide. Il va découvrir un vécu sordide. Avec aucun noir qu'on traite normalement. Hein. Quand on leur parle, c'est uniquement avec des insultes. La nuit, quand on fait la fête, on va dans le premier... Ça, c'est Simenon qui le raconte, là, c'est pas moi. Hein. On va dans le premier village nègre à côté, on rentre dans une case, avec un coup de pied, on ouvre la porte, on fait partir l'homme, et on profite de la femme qui va aller chercher des amis pour continuer. Voilà. Ça, c'était une réalité coloniale. Je ne dis pas que c'est la seule réalité coloniale. Mais c'est une réalité coloniale qu'il faut quand même savoir, connaître.
Bien sûr.
Et ça laisse des traces. Ça laisse des traces, pas dans les livres d'histoire, ça laisse des traces dans les mémoires.
Chez les hommes.
Ça laisse des traces dans les corps, même dans les corps des hommes et des femmes.
Et ce musée-là, vous voyez est-ce qu'il va éclore de son projet?
Ça, je me demande.
Est-ce qu'il ne pourrait pas être virtuel, ce musée?
Non, il ne faut pas qu'il soit virtuel, il faut qu'il soit réel. Il y a des musées de tout, on fait des musées de la chaussure, pourquoi on ne pourrait pas faire un musée du colonialisme? Non, le problème, revenons sur la Porte Dorée, justement.
Ouais.
La Porte Dorée a été construite pour l'exposition universelle de 1931.
Oui. Hein,
et c'était un monument à la gloire du colonialisme. Et je ne sais pas si vous le connaissez, le bâtiment.
Oui,
le connaissez, il est magnifique.
Superbe,
mais ça pue. Ça pue le colonialisme. Hein, si vous regardez dedans, vous voyez ce que c'est.
Ouais.
Détaillez les images, détaillez tout. Et vous voyez que c'est... Alors, c'est bien pour montrer le colonialisme. Et justement, dans ce musée, dès le départ, quand il n'a plus été musée des colonies, parce qu'il n'y avait plus de colonies, hein, en 60, il est devenu musée des arts et tout ça. Il aurait dû devenir musée du colonialisme dès ce départ.
Ouais.
Dès ce départ. Et on lui a mis l'immigration, comme ça on s'est dit on s'en débarrasse, parce qu'on ne voulait pas d'un musée du colonialisme. Et nous, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que ce musée devrait revenir à son truc premier, parce que faire un musée de l'immigration dans un endroit pareil, ça fait qu'on conforte cette idée que la seule immigration, c'est l'immigration coloniale.
Ouais.
Donc c'est dangereux, voilà.
Ah ben merci, merci que Jacques Menulet d'avoir donné le mot de la fin. C'est dangereux, voilà, de ne pas connaître l'histoire.
Ah, c'est dangereux de ne pas connaître l'histoire, ça on le voit.
Merci à vous, merci d'avoir comme ça balayé rapidement l'histoire de Frantz Fanon, mais nous voulions mettre cet homme à l'honneur et nous l'avons fait. Ben, merci Lucas Biely d'avoir co-animé avec moi cette émission.
Écoutez, une émission qui laisse plein de questions.
Plein de questions, peut-être on y reviendra alors.
En tout cas, oui, merci, merci beaucoup.
Sur le musée, ce serait bien, parce que là, on a l'exposition et c'est bien.
Ouais. Merci à tous, au revoir et à très vite.
Allez, au revoir.
Au revoir.
C'était Lucas Biely et Guylaine Dubois pour Radio Divan, une émission produite et réalisée par FM+.
Sur une musique originale de William Balfour,
à retrouver sur radiofmplus.org, sur YouTube et Deezer.